philosophie de la matière par le père Philippe à Rimon le 13 octobre 1989.
Quelques petites questions. Pourriez-vous nous montrer comment les sciences modernes dépendantes des mathématiques ne peuvent être rivales de la philosophie de la matière. Je le montrerai progressivement. J'ai pas envie de faire un cours de critique là-dessus. Je crois que vous arriverez petit à petit à le voir. Parce que ce serait de voir comment les mathématiques regardent la matière. Comment la philosophie première regarde la matière. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Au fond, par rapport aux sciences modernes, je crois qu'il faut tout le temps venir aux mathématiques. C'est ça qui me semble important. Parce que les mathématiques, c'est pour l'intelligence humaine un lieu très important. On est en connaturalité avec les mathématiques. Plus qu'avec la philosophie première. C'est pour ça qu'on parle de la post-mathématique, on ne parle jamais de la post de la philosophie première. C'est inscrit dans le crâne, la mathématique. Tandis que la philosophie première, l'intelligence séparée, c'est pas du tout séparé des mathématiques. Mais c'est terriblement abstrait. Ce qu'Aristote dit toujours, c'est l'être abstrait, les mathématiques. C'est très beau comme expression. Alors, parce que c'est un être abstrait, abstrait par nous, les mathématiques sont le fruit de l'intelligence humaine. Tandis que la philosophie première, c'est toujours être en présence de quelque chose qui nous dépasse. Toujours. Les mathématiques, c'est jamais quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'on est à l'aise dans les mathématiques. On est dans un domaine intelligible. Et un domaine intelligible dans l'ordre du possible. C'est le domaine du possible, les mathématiques. Tandis que la philosophie première, c'est le domaine de ce qui est. Alors on comprend très bien comment les mathématiques, par rapport au platonisme, et par rapport au néoplatonisme, sert d'intermédiaire, de métaxu. Le platonisme est une sorte de méta-mathématique. Alors qu'Aristote, métaphysique. Oui. C'est au-delà des mathématiques, mais dans le prolongement des mathématiques, et c'est le néoplatonisme. C'est le domaine des possibles. C'est toujours bien plus agréable pour nous d'être dans le domaine des possibles. On se gargarise, c'est possible. Tandis qu'on ne se gargarise pas de l'être réel. On a mal à la gorge. Ça, c'est sûr. Les possibles, c'est un domaine dans lequel on est. On est chez soi. On est chez soi. Alors, la vision de la matière, pour le mathématicien, ça se ramène au divisible, à l'infiniment divisible. C'est le divisible. Tandis que pour le philosophe, la matière première, c'est la puissance, la potentia pura, la puissance pure. C'est pas le non-être. C'est pas le non-être. Ça, c'est pour Platon, le non-être. Parce que c'est le divisible. Ce qui intéresse, c'est le divisible. C'est la quantité. Et la quantité est vue par l'imagination. Une imagination toute transformée par l'intelligence. Alors, on est le divisible. Ça, c'est un très gros problème. Que ce soit un problème que vous posiez tout le temps. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas le traiter. Parce que c'est la lame de fond au plan critique. Alors, le traiter, c'est très bien dans un cours de critique, mais ce que je voudrais avec vous, pensée que la matière au plan philosophique. D'aller jusqu'au bout de cette compréhension de la matière. Quelque chose qui est tout le temps là, comme un mur, qui arrête, et qui pourtant, je ne dis pas que la matière nous séduit, mais elle exerce quelque chose de très particulier. Vous savez, la force d'attraction de l'abîme, le vertige. Quand on a le vertige, très curieux. Quand on vieillit, le vertige augmente. Mais c'est très curieux, ça, le vertige. La question du vertige. Il y a séduction, attraction, vertige. Bon, l'attraction, causalité finale, le bien. Séduction, causalité du beau. La cause efficiente, faudrait voir. C'est une attraction très particulière. La cause est efficiente. C'est l'attraction de celui qui en fait toujours plus. Il accumule. Et puis, la cause formelle, donc c'est la cause finale, la cause formelle comme telle. Non, mais ça revient à la cause exemplaire, donc c'est la séduction. Et puis le vertige de la matière. La matière donne ce vertige. C'est très difficile à analyser au point de vue philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'exactement ce vertige? Il y a un lien entre le vertige et l'attraction. Il y a un lien très souterrain entre la cause matérielle et la cause finale. Alors, c'est la causalité maternelle. Ouais. Cette chose très curieuse. Comment la mer, la causalité maternelle et l'océan. Quand on parle du complexe océanique, ça veut dire quelque chose, le complexe océanique. On veut retourner au berceau. Ça existe de temps en temps, des gens qui ne veulent pas se lever le matin. C'est le retour au berceau. On est tellement bien là. Pas de supérieur. On n'a qu'une mère. Alors c'est très curieux, et je crois que la hantise qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autorité se traduit très souvent dans cette espèce de retour au berceau. Très souvent, il y a des liens. Tout ça, c'est quelque chose que nous portons en nous. Alors évidemment, la causalité, mais la paternité divine de Marie, grâce à sa pauvreté, il n'y a plus d'enlisement. C'est pour ça qu'elle est la plus pauvre. Parce que la matière n'est pas pauvre du tout. La matière accapare. Oh là là. Elle ramène à elle. Avec une force. C'est pour ça qu'elle exerce le vertige. Et dans ses iodes, c'est dit magnifiquement, ces choses-là. Faudrait que je le lise une fois. C'est pas commode à lire. Parce que c'est une brutalité vertigineuse. Mais c'est extraordinaire. C'est d'avoir dit ces choses-là. Alors évidemment, ça l'est dit dans un style mythique, c'est plus facile. Dans un style philosophique, c'est beaucoup plus difficile. Il faudrait traduire le mythe des iodes dans... Pour lui, c'est l'histoire des dieux, mais c'est mythique, évidemment. Dans un style vraiment philosophique, pour comprendre... Ce que représente la matière, c'est ça que le philosophe essaie de comprendre. Mais c'est par rapport à l'homme. Tandis que le mathématicien, non, les mathématiques ne font aucun enlisement du mathématicien. Le mathématicien, comme mathématicien, n'est jamais enlisé. C'est extraordinaire. Il ne sait pas ce que c'est. Comme mathématicien, comme homme, il peut le savoir, en vieillissant. Mais un jeune mathématicien ne sait jamais. C'est ça, c'est le problème des mathématiques. La dignité des mathématiques, c'est ça. C'est une intelligence très curieuse, intelligence mathématique, très belle. Et qui a une noblesse. Alors, c'est pour ça que je ne réponds pas tout de suite, mais ayez, si je ne réponds pas, c'est pas parce que je considère que c'est une question très importante qu'il faut avoir toujours dans l'esprit. La conception de la matière chez le mathématicien, la conception de la matière en philosophie, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, la matière est pure puissance. Qu'est-ce qu'une réalité qui est pure puissance ? C'est la matière. Et il n'y a que la matière. Je peux vous donner un autre exemple. Il n'y a que la matière. Alors, on va essayer de préciser. Pure puissance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelque chose qui est puissance substantiellement. C'est une puissance substantielle, la matière. C'est pour ça qu'on dit pure puissance. Oui, c'est le terme grec aplos, qui est puissance radicalement. Et la matière est puissance radicalement, donc substantiellement. Oui. Et c'est ça qui est tout à fait caractéristique de la matière au plan philosophique. C'est que on saisit une réalité qui est radicalement puissante. Radicalement indéterminée, n'ayant en elle-même aucune détermination, aucune forme.
Oui. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un principe ?
C'est une réalité. C'est Kant qui en fait une condition sine qua non. Kant fait de la matière une condition sine qua non. Donc, tandis que pour nous, c'est une réalité. Que Dieu a créé en même temps que la forme. Elle est concrète, mais elle est créée. C'est pour ça que c'est pas du non-être. Oui.
Quelle est la différence entre pure puissance et nature puissance ?
Ah, c'est bien sûr, nature puissance, la nature implique une détermination. Tandis que la pure puissance indique aucune détermination, c'est la potentia, c'est la materia prima. La matière prima, c'est la pure puissance. C'est la matière fondamentale. On va essayer de préciser. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Question ? Pardon ? Oui ?
Mais je n'ai jamais l'expérience de la matière séparée.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je n'ai jamais l'expérience de la matière.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire la connaissance. Maintenant, nous partons de la connaissance. Comment puis-je dire ça ? Ça qui est intéressant, ce que je l'affirme là. Mais comment puis-je dire ça ? Bon. Je n'ai connaissance de la puissance que par l'acte. Ça, c'est net. Dès que je parle de puissance, j'en parle donc toujours analogiquement, en référence à quelque chose d'autre. Vous voyez ? Je n'ai pas d'intuition de la puissance. C'est pour ça que c'est le vertige. Parce que le vertige, c'est juste l'inverse de l'intuition. Le vertige, c'est une chose très curieuse. Ça vous anime intérieurement. Vos jambes commencent à flageoler. Oh là 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 là. Et vous ne pouvez plus vous tenir droit. Il ne faut pas chercher l'expérience du vertige, parce que c'est pas la peine tant qu'on ne l'a pas, tant mieux. Mais le jour où on l'a, on s'aperçoit ce que c'est. Et si on l'analyse, on voit très bien que c'est quelque chose de mystérieux. C'est pour ça qu'on dit ça. Bon, alors je dis, la puissance se connaît par l'acte. Je connais le monde physique par ses déterminations, donc par la nature forme. L'eau, c'est l'eau. J'ai une expérience de l'eau. Mais l'expérience de l'eau, c'est pas H2O, c'est autre chose, c'est l'eau. Tous les matins, quand vous vous lavez, vous l'expérience de l'eau. L'expérience de la douche, l'expérience du bain, l'expérience de simplement le petit choc qui se rafraîchit là. L'expérience de l'eau. Alors les pieds dans l'eau. Faites de la philosophie quand vous mettez les pieds dans l'eau et réfléchissez sur ce que c'est que l'eau. C'était de Conin qui dit ça, Charles de Conin, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire. Un bon flamand qui avait appelé son fils Thomas. Il est Thomas d'Aquin, Thomas. Thomas de Coninck. Il enseigne du reste à Laval. Eh bien, quand il arrivait, il disait, il cherchait ce que c'était que l'eau. Quand on lui demandait dans les universités, alors quel est le dernier bouquin que vous êtes en train d'écrire ? Non. Qu'est-ce que c'est que l'eau ? Ah, viens, on prend pour un imbécile, un fou. Qu'est-ce que c'est que l'eau ? Qu'est-ce que c'est que le feu ? Qu'est-ce que c'est que la terre ? Qu'est-ce que c'est que l'air, les éléments ? Oui, j'ai l'expérience de ces déterminations. L'eau n'est pas le feu. Donc il y a une détermination. Toute nature a une détermination. Toute nature existe, toute réalité, tout élément a une détermination. Mais cet élément peut être modifié. L'eau peut consumer le feu. Et le feu peut consumer l'eau. Dans les pompiers, il y a toujours une bataille entre le feu et l'eau. C'est pour ça que c'est très beau le métier des pompiers. Ben, ils se mettent du côté de l'eau. On peut se mettre du côté du feu. C'est deux tempéraments très différents. Les sapeurs-pompiers sont toujours du côté de l'eau. C'est pour ça que je n'aimais pas beaucoup ce bénédictin qui était au Mont-Saint-Michel. Et quand j'ai vu, je dis, alors vous êtes donné combien de temps ? Qu'est-ce que... Vous voyez, je me suis, pour m'insérer dans la société, je me suis mis pompier. Sapeur-pompier. Bénédictin, sapeur-pompier. Je dis, mais vous êtes plutôt fait pour allumer le feu que de l'éteindre. Ah, j'y ai pas pensé. Vous devriez y penser. Bénédictin, sapeur-pompier. Mais c'est assez particulier. Ça ne renouvelle pas beaucoup la rue de Saint-Benoît. Mais c'est authentique ce que je vous dis. Je ne sais pas s'il est toujours là, parce qu'il était au Mont-Saint-Michel. Parce qu'il fallait qu'il s'insère dans la société. Alors, il aurait dû être dans les pyromanes. Ça aurait été mieux. Ça aurait été plus la situation. Donc, il y a transformation d'un élément en autre. Ce qu'on appelle une mutation substantielle. Et la mutation substantielle exige de poser une continuité entre le passage de l'un à l'autre, d'où de poser, d'inférer la matière prima. La matière première est inférée à partir de la transformation d'un élément à l'autre, ou de la génération animale. Il y a une continuité, cependant, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, une substance nouvelle, une réalité substantielle, une nature nouvelle. Et donc, il y a une continuité. Cette continuité est radicale. Elle touche l'aspect substantiel, l'aspect de la nature, dans ce cas-là de plus radical. Et donc, on parlera de matière prima. Et on dira qu'elle est pure puissance. Puisque si elle avait une détermination, il n'y aurait pas une transformation substantielle. La génération oblige, la génération du vivant oblige d'opposer la matière prima. Réfléchissez bien et vous verrez que c'est impossible de voir la continuité de la mère à l'égard du petit embryon. Dès le premier moment de sa conception, il y a séparation. Et pourtant, il y a continuité vitale. Cette continuité vitale se fait par la matière prima.
Mais... Les bouddhistes comprennent les éléments premiers physiques pour s'effondre dans l'étoffe de l'univers.
Oui.
Est-ce qu'ils...
Oui, ça, c'est une attitude religieuse, hein, religieuse, vous voyez, panthéiste, c'est plutôt panthéiste. Oui, parce que c'est les éléments qui sont dans le monde physique, ce qu'il y a de plus fondamental. Non, ben, ils ne remontent pas à la matière prima, parce qu'ils ne sont pas spéculatifs, ils ne sont pas spéculatifs du tout, les bouddhistes. philosophie spéculative, mais pas les bouddhistes. Dans l'Inde, il y a une philosophie, il y a une métaphysique dans l'Inde. Vous voyez ? Tandis que les bouddhistes, il n'y a pas de métaphysique. Ça. Et donc, l'expérience ultime, c'est les éléments. Et vous fondez dans les éléments. La materia prima ne peut se comprendre dans une connaissance de philosophie spéculative. Uniquement. Puisque je veux aller jusqu'au bout de la causalité matérielle. Et la causalité matérielle, c'est toujours ce qui fait la continuité de notre monde physique. Notre monde physique a une continuité. Cette continuité, elle s'exprime à travers les générations des vivants, à travers la mutation des éléments. Vous voyez ? Donc vous voyez comment on pose la matière prima. C'est analogiquement à partir de la génération et de la mutation des éléments. Donc quelque chose de tout à fait fondamental. Alors qu'est-ce que c'est que cette matière prima ? C'est pure puissance dans le domaine physique. Alors je comprends très bien, vous voyez, comment Kant dit, c'est ce qui permet la génération. C'est ce qui permet les mutations des éléments. Donc, condition sine qua non, ce qui permet. Mais attention, c'est juste comme explication. Donc, au point de vue de la connaissance. Mais ce n'est pas juste au point de vue de la réalité. C'est quelque chose de réel. Puisque je constate un point de départ et un terme, il y a une continuité. C'est quelque chose de réel, mais qui m'échappe au point de vue de ma connaissance. D'où pure puissance. Et ce n'est pas du non-être. Oui. Donc, mettez en parallèle ceux qui disent que la matière première est du non-être, Platon. Ceux qui disent qu'elle est une condition sine qua non, Kant. Ceux qui disent qu'elle est pure puissance, Aristote. Vous avez là trois positions importantes. Il n'y a que celle d'Aristote qui est tout à fait légitime, vrai. Oui.
Quelle est la relation distancielle entre le principe nature-matière qui ne change pas et la pure puissance qui, elle, se transforme ?
La distinction matière et forme, nature-forme, nature-matière, se fait à partir de tout devenir. Le devenir de l'eau, le devenir du feu, à partir de tout devenir. Et je reste à un niveau d'analyse au niveau même de la nature. Tandis qu'au contraire, quand je parle de la materia prima, je ne parle plus d'une nature. Oui, c'est la confusion que fait Suarez. Suarez fait la confusion entre nature et materia prima. Alors il parle de disposition. Il est bien évident que la nature matière implique des dispositions. Elle est un co-principe. C'est une analyse que je fais. Je constate. Tout être physique implique une nature-forme et une nature-matière. Ce qui implique une détermination et une indétermination. Ce qui peut changer.
Mais une relation avec la pure puissance, une relation distincte.
C'est évident qu'il y a une relation. Puisque cette réalité peut se changer substantiellement. Et quand elle se change substantiellement, je touche la matière première. Oui. Donc c'est l'ultime analyse, c'est fou.
Comment oui. Dites-vous que la nature matière implique des dispositions, alors qu'elle est indétermination.
Elle est indéterminée, mais elle est déterminée aussi. Puisqu'il y a une correspondance entre la nature matière et la nature forme. Il y a une harmonie entre les deux. Faut bien. Quand vous analysez l'eau, l'eau implique quelque chose de matériel et implique quelque chose d'indéterminé. Sa matière n'est pas totalement déterminée. Oui. Et dans l'analyse que je fais quand je sépare les deux, la nature matière implique une potentialité à l'égard de la forme, mais comme cette forme ne détermine pas toute la matière, elle n'a plus toute disposition. Autrement, vous ne pourrez pas expliquer qu'un corps physique est corruptible. Un corps physique est corruptible. Pourquoi est-il corruptible ? Parce qu'il a toujours d'alliances secrètes avec d'autres formes. S'il n'y avait pas une alliance secrète avec d'autres formes, il n'y aurait pas de corruptibilité. Il serait ce qu'il est. Il y a toujours des alliances avec d'autres formes. C'est comme ça qu'il est corruptible. Pourquoi êtes-vous corruptible ? Pourquoi êtes-vous capable d'attraper des microbes, de la grippe, dès qu'il commence à faire froid ? Hein ? Et qu'on est obligé de chauffer pour les petits tempéraments, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ne luttent pas assez. On voit très bien cette chose-là. Quand vous êtes fatigué, vous attrapez bien plus facilement la grippe. Quand vous êtes en combat, vous ne l'attrapez pas. Il faut toujours maintenir le combat pour ne plus l'attraper. Alors là, on est tout le temps en lutte. Alors on ne l'attrape pas. Les microbes passent au-dessus. Tandis qu'au contraire, le microbe voit des petites alliances, des dispositions à côté. Hein, fait petit clin d'œil. Je parle un langage métaphorique pour que vous compreniez. Mais il y a des dispositions dans la nature matière à autre chose que la forme. Il y a des tas de complicités, quoi. Des complicités avec l'univers entier. C'est très curieux, ces choses-là. Mais on sent très bien ça. C'est sûr qu'on a des complicités à l'égard de la maladie. Vous voyez, si je suis malade, je pourrais me reposer. Hein ? C'est le truc. Le supérieur ne veut pas m'accorder de repos. Il dit qu'il faut marcher. Mais si je suis malade, je pourrais me reposer. Là, j'ai une petite tentation psychologique. Il y a toujours ça. Tandis qu'au contraire, si je suis parfaitement déterminé, je ne veux pas être malade, eh bien, je ne le serai pas. Allez me poser. Alors, n'allez pas trop loin. Hein. N'allez pas trop loin. Mais il y a quelque chose de juste. Parce que toujours, il y a le point de vue psychologique qui est présent. Alors c'est pour comprendre que la nature, matière, implique des complicités, des dispositions. Tandis que la materia prima, aucune complicité. Elle est pure. Hein, d'une pureté très particulière, qui est la pureté de celui qui n'a aucune détermination. Mais elle n'existe jamais dans cet état-là. Alors ne disons pas, c'est une vue de l'esprit. Non, c'est réel, mais l'intelligence seule peut parler de la matière prima. Donc seule la philosophie peut parler de la matière prima. La science n'en parlera jamais, parce qu'elle est descriptive. Et il faut là l'induction poussée jusqu'au bout. La science peut parler d'une matière, d'une indétermination. C'est bien évident, elle constate la corruptibilité. Elle constate la dégradation. Donc elle peut parler de ça. Mais elle ne peut pas parler de la matière prima. Seule l'intelligence philosophique peut aller jusque-là. Donc, c'est une modalité d'être. Puisque la puissance est une modalité d'être. La puissance n'est pas du non-être. C'est une modalité d'être. Relatif à l'acte. C'est ce qui est capable d'être actué. Le non-être n'est pas capable d'être actué, puisqu'il est non-être. Il n'est rien. Donc il ne peut pas être actué. Le rien ne peut pas être actué, sauf par la création. Ex nihilo. Mais ça, la création, c'est pas la forme. C'est l'acte suprême. Est-ce que vous voyez à peu près, hein? Ça reste, il ne faut jamais avoir une vision claire de la matière prima. Hein? C'est une vision analogique, donc très subtile, mais que nous posons et que nous sommes obligés de poser. Radicalement. Quelle est la ressemblance et la différence entre la connaissance symbolique que l'on a dans l'art et la connaissance intellectuelle? distinguer ma manière de connaître en philosophie de la matière et la physique contemporaine. Autrement, on commence à faire une critique de la physique contemporaine au nom de la philosophie de la nature, ce qui est très mauvais. La philosophie de la nature n'a pas à critiquer la physique contemporaine, absolument pas. Je montre simplement que la physique contemporaine est dépendante des mathématiques. Voilà. Et c'est suffisant.
Mais alors quoi ? Ouais, hyper.
existence, il n'est pas relatif. Allez, absolument, ça sort. Et c'est ça qui est important à saisir, c'est pour ça qu'on fait un cours sur la matière. C'est pour qu'on essaie de comprendre comment le monde physique, le monde, notre monde, notre univers, il est pour l'homme. Il est pour l'homme. Ça doit arriver à être une évidence pour vous. Une évidence philosophique. Alors, les théologiens, les pères de l'Église l'ont dit. Et vous savez bien ce que dit Freud. Cette grande vision des pères de l'Église, que tout l'univers est fait pour l'homme, c'est complètement dépassé. Alors il donne les trois dépassements. Il faut toujours les voir, les trois dépassements. Pour les pères de l'Église, la terre est le centre de l'univers. Et sur la terre, il y a l'homme. Bon, ça, renvoyez promener. Pour les pères de l'Église, l'homme est créé par Dieu. Or, l'évolution montre qu'il y a une continuité de la materia prima, mais un peu plus dans l'évolution que la materia prima. Oui, les évolutionnistes ne vont pas assez loin. Ils devraient aller jusqu'à la materia prima. Donc l'homme est relatif à l'animal. Et la psychanalyse freudienne montre au cœur de l'homme le complexe d'Oedipe. Alors, l'homme n'est plus haut, n'est plus ce qui donne le sens à l'univers. lequel je suis. Et puis l'autre en face allait être en premier. Mais là, vous avez une vision. Et